VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Media Dakar, Treasure N'Djamena, bienvenue à notre journal. Zimbabwe, la dépouille de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe est attendue aujourd'hui dans son pays pour des obsèques nationales en présence de leaders venus d'Afrique et d'ailleurs. Le père de l'indépendance de l'ancienne colonie britannique de la Rhodésie du Sud s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il venait régulièrement se faire soigner depuis des années. À la tête du Zimbabwe depuis 1980, le camarade Bob, comme le désiraient les membres de son parti, a été écarté du pouvoir fin 2017 par un coup de force de l'armée qui a installé son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa à la magistrature suprême. L'appareil transportant la dépouille de Robert Mugabe est attendu dans l'après-midi à l'aéroport de la capitale Harare, qui porte son nom, a indiqué la ministre zimbabwéenne de l'information Monica Mutsvangwa. Au Cameroun, un grand dialogue national est convoqué pour résoudre la crise anglophone. Il se tiendra à la fin de ce mois, a annoncé le président Paul Biya au cours d'une allocution spéciale mardi. Plus de détails à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
C'est le premier ministre actuel, un anglophone de la région du Sud-Ouest, qui va présider cet important rendez-vous. Parmi les invités à ce grand dialogue national, le président du Cameroun a cité entre autres des groupes armés, des représentants des forces de défense et de sécurité et des membres de la diaspora. Le grand dialogue national exclut tout débat sur la forme de l'État. Le Cameroun reste un et indivisible, a martelé Paul Biya, qui a par ailleurs, sous un ton ferme, rejeté l'idée de la marginalisation des anglophones. S'agissant des dernières décisions de justice condamnant M. Ayouk Tabé et les autres leaders séparatistes anglophones à la prison à vie, le président a évoqué la possible éventualité du pardon et du droit de grâce sous certaines conditions. Toutefois, a-t-il nuancé, l'on ne peut tranquillement assassiner dans l'espoir qu'un éventuel dialogue permettra d'effacer tous ces crimes. Paul Biya a lancé une nouvelle fois un appel aux groupes armés à déposer les armes et demander aux pays étrangers qui abritent les extrémistes anglophones d'agir, citation, contre ces criminels. Fin de citation. Yaoundé, Emmanuel Jouluntap, VOA Afrique.
Au Tchad, le Parlement a prorogé l'état d'urgence de 3 mois dans 3 régions du pays en proie à des conflits armés. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon Djimet Arabi, une prolongation était nécessaire compte tenu de la saison des pluies qui rend certaines zones non accessibles pour l'armée. L'accord du Parlement était nécessaire pour prolonger l'état d'urgence de 3 mois. 115 ont voté pour et il y a eu 2 abstentions. Le président Idriss Déby Itno l'avait décrété mi-août dans 2 provinces de l'Est, le Sila et le Wadaï, après des affrontements meurtriers entre communautés d'éleveurs nomades et de cultivateurs sédentaires qui avaient fait plus de 50 morts en quelques jours. Le chef de l'État avait également instauré l'état d'urgence dans une province du Nord-Est, le Tibesti, frontalière avec la Libye, où opèrent des orpailleurs illégaux et des rebelles tchadiens. La mesure avait cependant inquiété certains acteurs de la société civile et des défenseurs des droits humains qui craignent des excès de l'armée.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Plusieurs soldats nigérians ont été tués dans une embuscade tenue par les djihadistes au passage d'un convoi militaire dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont indiqué ce mercredi des sources sécuritaires. Des combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, faction islamiste issue d'une scission de Boko Haram, ont ouvert le feu sur un convoi qui se rendait lundi vers la ville de Goudoumbali dans l'État de Borno. Une attaque revendiquée ouvertement par les partisans de l'État islamique qui affirment avoir tué et blessé des dizaines de militaires nigériens. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, exhorte le Nigeria à libérer des milliers d'enfants détenus par l'armée en raison de leurs liens présumés avec les insurgés islamistes. Plus de précisions avec Nathalie Barge.
Human Rights Watch affirme que ces enfants sont détenus dans des conditions inhumaines, en particulier dans la caserne de Giwa à Maïdougouri. De nombreux enfants sont détenus sans inculpation pendant des mois ou des années dans des casernes sordides et surpeuplées, indique l'ONG dans un rapport. Human Rights Watch dit avoir interrogé 32 enfants, dont le plus jeune n'avait que 5 ans. Certains ont dit avoir été arrêtés après avoir fui des attaques des insurgés. Plusieurs filles enlevées ont été victimes de mariages forcés pratiqués par les islamistes. Boko Haram a souvent utilisé des enfants, dont des fillettes d'une dizaine d'années, pour mener des attentats suicides. L'armée nigériane a rejeté les conclusions de ce rapport, affirmant que les enfants sont gardés dans des sites sécurisés où ils sont nourris de manière adéquate, que leur profil est examiné et qu'ils sont déradicalisés avant d'être remis en liberté.
VOA Afrique en direct de Washington.
Actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Afghanistan, une roquette a touché ce mercredi un mur du ministère afghan de la Défense, proche de l'ambassade américaine, aux premières heures du jour anniversaire des attentats anti-américains du 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est la première attaque contre la capitale afghane depuis que le président américain Donald Trump a affirmé samedi dernier mettre fin à des pourparlers avec les talibans sur un retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Ce 11 septembre, 18 ans après, la nation américaine se souvient des attentats. Le président Trump et d'autres personnalités vont assister aujourd'hui à des cérémonies pour rendre hommage à près de 3000 personnes tuées dans les attaques terroristes les plus meurtrières sur le sol américain. 18 ans après, les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau sans précédent. Le reportage de Carla Babb, correspondante de VOA Afrique, au Pentagone, avec le récit de Lionel Gaïma.
Le 11 septembre 2001, l'inimaginable est arrivé sous le sol américain. Deux avions percutent les tours jumelles du World Trade Center à New York. Un autre avion tombe sur le Pentagone. Un quatrième avion s'écrase sur un champ en Pennsylvanie parce que les passagers se sont courageusement battus avec les pirates de l'air. Depuis, les dépenses militaires ont atteint plus de 1800 milliards de dollars en 2018. Peter Wiseman, de l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm.
Nous devons le voir comme un signal d'alarme qui ne va pas nécessairement mener à la guerre, mais qui nécessite une attention particulière.
En 1998, les dépenses militaires avaient atteint leur niveau le plus bas de l'après-guerre froide. Au nom de la lutte contre le terrorisme, les attaques du 11 septembre ont poussé la guerre en Afghanistan et en Irak. Les dépenses militaires américaines ont d'abord fortement augmenté. Par la suite, l'administration Obama a commencé à réduire le budget de l'armée américaine, mais les dépenses militaires sont à nouveau en hausse. Les États-Unis possèdent 11 porte-avions, un arsenal nucléaire énorme, de nouveaux avions de combat dernier cri et plus de 2 millions de soldats. Les experts s'accordent pour dire que l'armée américaine reste la force dominante. Bradley Bowman, Fondation pour la défense des démocraties.
Il y a parfois une tendance à donner à la Russie et à la Chine une courte avance, mais ce n'est pas le cas. Il y a des réelles faiblesses là que nous pourrions exploiter en cas de conflit. Mais il y a aussi des domaines où elles sont plus avancées que nous.
La Chine est le deuxième pays qui investit le plus dans l'armée en faisant passer le budget militaire de 2% en 1990 à 14% aujourd'hui. Bradley Bowman, de Fondation pour la défense des démocraties.
Nos alliés et partenaires ne devraient se faire aucune illusion sur le fait que la Chine a entrepris un effort colossal pour moderniser ses forces armées, pour nous contraindre et nous vaincre en cas de futur conflit.
La Chine a construit deux porte-avions cette dernière décennie et un troisième est en construction. Elle a développé ses propres avions de combat d'élite et ses troupes sont passées à plus de 2,5 millions de soldats. Et la Chine investit dans les nouvelles technologies, notamment hypersoniques, des armes capables de voler 5 fois plus vite que le son. Peter Wiseman, de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm.
Ce sera perçu comme une menace par ses voisins. Et ses voisins aussi vont réagir.
Ainsi, l'Inde a augmenté ses dépenses militaires de plus de 11 milliards de dollars en 3 ans pour se placer au 4e rang mondial. La Russie ne fait plus partie des 5 principaux pays qui dépensent le plus en 2018, mais continue de retenir l'attention de l'OTAN après son invasion de la Géorgie en 2008 et l'annexion de la Crimée en 2014.
Merci Lionel Gaïma. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.